Et nous allons en parler de la recherche, l'actualité de la recherche, qui est très riche, notamment sur le plan de la génétique. On en parle avec le professeur Gaël Nicolas. Merci de me rejoindre. Vous êtes neurogénéticien au CHU de Rouen, directeur de l'unité INSERM Cancer et Brain Génomique et responsable dans cette unité des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des recherches génétiques qui permettent de prédire pour un individu donné le risque d'avoir un jour la maladie d'Alzheimer?
Merci beaucoup. Alors vous voyez que le nom de l'unité, c'est cancer et cerveau, parce qu'on a des équipes qui travaillent sur le cancer et des équipes qui travaillent sur le cerveau à Rouen, et en particulier sur les aspects génétiques. Et moi, je dirige l'unité et je dirige tout particulièrement une équipe de recherche sur la génétique de la maladie d'Alzheimer tout particulièrement. Je tiens à souligner qu'on a reçu récemment le soutien de la mairie, puisqu'on a également un financement qui nous aide à travailler sur ces aspects extrêmement compliqués, à payer le salaire d'une jeune chercheuse qui fait avancer les choses. Et parmi les travaux que je vais vous présenter là, il y a certains de ces travaux. Et également le soutien de la Fondation Recherche Alzheimer également pour poursuivre ces travaux. Je suis très heureux de profiter de cette occasion pour vous donner des nouvelles de la recherche. Alors, la question qui est posée aujourd'hui, c'est peut-on prédire le risque de maladie d'Alzheimer grâce à des outils de la génétique? Et puis, au-delà de ça, à quoi la génétique ça sert dans la maladie d'Alzheimer et qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Alors, je vous fais l'affront de vous rappeler que c'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente, qui concerne énormément de monde, qui touche plusieurs structures du cerveau, dont la mémoire, mais pas uniquement, et qu'il y a des anomalies dans le cerveau qui vont progresser et entraîner les symptômes, mémoire et autres symptômes de la mémoire, et malheureusement, aujourd'hui incurables, comme cela a été rappelé. Alors en fait, quand on veut définir la maladie, on peut aussi la définir d'un point de vue anatomique en regardant directement dans le cerveau. Alors on ne peut le faire évidemment que sur des autopsies, sur des malades qui ont fait le don à la recherche. Et depuis la description par le docteur Alois Alzheimer en 1902, on sait qu'il y a deux types d'anomalies dans le cerveau des patients. Il y en a qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires, il n'y a pas de pointeur, c'est pas grave, à gauche, on sait maintenant qu'elles sont composées d'une protéine qu'on appelle la protéine Tau, et puis à droite, ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, qui sont constituées d'une petite protéine qu'on appelle le peptide amyloïde bêta ou A-bêta. Et depuis très très longtemps, on sait qu'il y a ces deux types de lésions, mais on ne sait pas quelle est celle qui vient avant l'autre, est-ce qu'il y en a une qui est avant l'autre, est-ce qu'il y a une question d'œuf et de poule, par exemple. Et ça, c'est la génétique qui a permis de répondre à cette question-là. Alors, si on regarde un petit peu comment la génétique peut interférer dans tout ça, on a tendance à dichotomiser d'abord en fonction de l'âge de début, l'âge où on remarque les premiers symptômes. Et on va parler de formes précoces quand les symptômes commencent avant 65 ans. Vous voyez que ça représente 5% des malades. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, 5% des malades, mais ça représente beaucoup de malades en France. Et il faut vous imaginer que c'est des malades qui sont encore en activité professionnelle, qui parfois ont 60, 50, 40 ans, et qui ont des problématiques spécifiques, sociales, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles d'un individu retraité. Et 95%, bien sûr, vous le savez, touchent des personnes de plus de 65 ans. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une forme précoce de moins de 65 ans qu'elle est forcément héréditaire. Il y a une minorité des formes précoces qui est héréditaire. Il y a environ 10 à 15% des formes précoces qui sont héréditaires. Donc, au total, on est largement à moins de 1% de tous les malades d'Alzheimer qui ont une forme purement génétique, purement héréditaire. Alors, quand je dis purement génétique, ça va donner des choses un petit peu comme ça. Alors, vous avez sur cet arbre généalogique, j'ai dessiné un carré en haut à gauche, ça correspond à un homme, et une femme en haut à droite qui correspond à un rond. Et en noir, j'ai dessiné une personne malade. Alors là, c'est un homme, ça aurait pu être une femme, c'est exactement la même chose. Dans les formes héréditaires, il va y avoir une anomalie génétique unique et suffisante qui est responsable de la maladie. Et on va parler d'un des trois gènes. Il y a trois gènes possibles. C'est soit le gène APP, soit le gène PSEN1, soit le gène PSEN2. Et pour une famille donnée, c'est un gène donné et c'est une faute d'orthographe donnée dans un gène. Et vous voyez que j'ai dessiné deux barres bleues parce qu'en fait, on a tous deux copies de chacun de ces gènes. Une copie qui vient du père, une copie qui vient de la mère. Et ici, vous allez avoir une croix rouge qui correspond à l'anomalie génétique. C'est comme une faute d'orthographe dans ce gène qui est présente sur une des deux copies. Eh bien, ce couple, quand il a fait des enfants, donc on se place en arrière, avant que la personne développe la maladie d'Alzheimer, cette personne était déjà porteuse de l'anomalie génétique, et, au moment de faire des enfants, on donne une copie de chacun des gènes. Donc le monsieur, en haut à gauche, finalement, il ne pouvait donner que soit la copie qui porte l'anomalie, soit la copie normale avec un risque de 1 sur 2. Donc dans ces familles, on a la transmission de la maladie de génération en génération avec un risque de 1 sur 2. Et je vous ai dit, l'âge de début est avant 65 ans, mais en fait, bien souvent, c'est 50, 40 ans, voire plus tôt. Vous avez les âges de début moyens à droite, ça va être aux alentours de 50-51 ans, voire même 44 ans pour le gène PSEN1. Et à Rouen, il y a une famille qui est concernée par la maladie à l'âge de 24 ans. Et c'est bien la même maladie que celle du sujet âgé. Donc ce sont des formes extrêmement rares, mais qui néanmoins nous ont appris beaucoup sur la maladie d'Alzheimer de tout un chacun. Alors, ces trois gènes, APP, PSEN1, PSEN2, qu'est-ce qu'ils nous ont appris ? Un gène, il faut voir ça comme un code qui permet de fabriquer une protéine, et les protéines, c'est les constituants importants du corps humain, et notamment du cerveau. Eh bien, vous voyez, APP, c'est un gène qui permet de fabriquer une protéine qui s'appelle APP également. Cette protéine qui est dessinée ici en bleu avec une partie verte au milieu, désolé, je n'ai pas de laser, elle code, elle permet de fabriquer donc une protéine, ce gène permet de fabriquer une protéine qui va pouvoir être coupée par des enzymes. Les enzymes, c'est des protéines également qui sont représentées par les ciseaux en bas, et il se trouve que ces enzymes, parmi ces enzymes, il y a également PSEN 1 ou 2, qui sont les enzymes qu'on appelle la présénéline. Eh bien, on sait que les mutations, les anomalies génétiques dans ces formes héréditaires, elles affectent directement soit la protéine APP, soit le ciseau, présénéline 1 ou présénéline 2. Et la résultante de tout ça, c'est ce qu'on voit en haut à droite, c'est qu'on va avoir une fabrication de ce peptide amyloïde bêta, le peptide A-bêta. Et donc, grâce à ces formes génétiques, on sait que c'est le peptide A-bêta qui est responsable de la maladie. Donc si j'en reviens à mon dilemme qui a occupé les chercheurs pendant des décennies, de savoir où est l'œuf et où est la poule, entre la protéine tau à gauche et le peptide amyloïde bêta à droite, la génétique nous répond, eh bien, c'est l'agrégation du peptide amyloïde bêta qui est responsable d'une cascade d'événements qu'on appelle la cascade amyloïde qui va mener à la maladie d'Alzheimer. C'est ce qui justifie aujourd'hui le développement de traitements. Ces traitements qui sont des candidats médicaments, dont certains sont même approuvés aux États-Unis, je vais vous en reparler brièvement juste après, ont pour objectif d'empêcher que le peptide A-bêta s'accumule dans le cerveau. Ce sont des anticorps qu'on donne par perfusion et qui empêchent le peptide A-bêta de s'agréger, et donc qui est censé casser cette cascade amyloïde. Alors je vous l'ai représenté comme ça de façon extrêmement simpliste, c'est comme ça qu'elle a été formulée dans les années 90, hein, cette hypothèse. En vérité, elle est beaucoup plus complexe, et cette diapositive, c'est juste pour vous dire que c'est beaucoup plus compliqué, et encore, c'est une simplification. Mais évidemment, ce n'est pas simplement une cascade qui va du haut en bas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais néanmoins, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Deuxièmement, comment on fait le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ? Alors je vous l'ai dit, la seule façon d'être sûr et certain que c'était bien une maladie d'Alzheimer et pas une autre maladie qui y ressemble, qui donne des troubles de la mémoire, mais qui n'est pas la maladie d'Alzheimer, c'est de faire un examen du cerveau après le décès. Donc ça peut avoir un intérêt pour la recherche, mais évidemment pour les patients, ça n'a aucune utilité. Donc comment on fait ? On fait le diagnostic d'abord en faisant des tests de la mémoire, et en faisant des diagnostics sur la base de tests de la mémoire, on peut donner un diagnostic de maladie d'Alzheimer probable, mais ce n'est pas suffisant. En disant ça, en fait, dans 15 à 20% des cas, on va affirmer que c'est une maladie d'Alzheimer alors que c'est autre chose, c'est une autre maladie du cerveau. Donc de plus en plus, on a besoin d'examens complémentaires, et notamment des examens d'imagerie, on va faire des images du cerveau, comme dans une IRM ou d'autres types d'imagerie, qui vont permettre de réduire ces erreurs de diagnostic. Et essentiellement pour les malades jeunes, on peut aller encore plus loin et aller rechercher des biomarqueurs, c'est-à-dire doser des molécules directement dans le liquide qui entoure le cerveau et qui est également disponible, qui circule dans la moelle épinière et en dessous. Et donc on fait une petite ponction lombaire, récupérer quelques gouttes et doser pour savoir si c'est bien une maladie d'Alzheimer ou pas. Et ce qu'on va doser, c'est justement le peptide amyloïde bêta et la protéine tau, celles qui sont les marqueurs de la maladie qui se développe dans le cerveau. Donc maintenant, du vivant des patients, on est capable d'approcher un diagnostic de précision. Et c'est extrêmement important parce que si on dispose de traitements spécifiques, il faut être sûr qu'on les donne aux bonnes personnes, à celles qui ont une maladie d'Alzheimer, et pas à celles qui ont une autre maladie qui est liée à une autre protéine qui s'agrège dans le cerveau. Ça, c'est donc très important de faire un diagnostic précis pour la recherche. Pour l'instant, malheureusement, au niveau des traitements, on n'est pas encore sur ce niveau de précision, mais on espère que ça va venir. Alors, une autre information importante, c'est en étudiant ces formes héréditaires, on a pu étudier des personnes qui n'étaient pas malades, mais qui étaient porteuses de l'anomalie génétique de la famille et dont on sait qu'ils vont développer la maladie plus tard. Ces personnes, qui sont des personnes de 30, 40 ans, 50 ans, ont fait un test génétique parce qu'ils savent que dans leur famille, il y a cette maladie liée à cette mutation. Ça représente très très peu de familles en France. C'est 270 familles rapportées en France depuis la découverte des gènes dans les années 90. Et c'est à Rouen que se fait cette analyse depuis les années 90 pour toute la France. Et donc, on sait, grâce à ces familles-là, que en fait, les modifications dans le cerveau ne se produisent pas au moment où on détecte les symptômes, mais 15 ans, 20 ans avant le début des symptômes, quand les gens ne s'en rendent pas encore compte. Vous avez sur cette diapositive, alors vous n'allez pas forcément bien voir, je peux me déplacer, cela dit, puisque j'ai le micro. Vous voyez ici le zéro correspond à l'âge de début de la maladie, c'est-à-dire des premiers symptômes. Puis vous avez tout un tas de courbes là, et vous voyez que ben, les courbes elles commencent à bouger bien avant. Ici, on est à 20 ans avant le début des symptômes. Ça veut dire que 20 ans avant le début des symptômes, on est capable de mesurer des différences dans le cerveau, que ce soit par un examen d'imagerie, que ce soit par une prise de sang, que ce soit par une ponction lombaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous ai expliqué que c'était le peptide amyloïde bêta qui était tout en haut d'une cascade d'événements. Donc si je veux m'attaquer à la cause de la maladie, et si je m'attaque à la cause de la maladie 20 ans après qu'elle ait commencé, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? La réponse est certainement oui. Il y a eu des essais thérapeutiques qui ont fait grand bruit ces dernières années, qui, d'abord dans un premier temps, n'ont pas montré d'efficacité en s'attaquant à ce peptide amyloïde bêta, et puis ils ont commencé à montrer un petit peu d'efficacité. C'est-à-dire que les gens qui en prennent, à condition de le donner au tout début des symptômes, ont toujours malheureusement une dégradation de leur mémoire, mais la dégradation est un tout petit peu plus lente que s'ils ne prenaient pas ce traitement. Mais ce médicament-là, dans ce cas-là, il est donné au tout début des symptômes, donc il est donné un petit peu après le zéro ici. L'idée que l'on souhaite mettre en place, c'est de pouvoir donner ce traitement bien avant, pour qu'il puisse protéger les personnes de la maladie d'Alzheimer. Et par ailleurs, sachez qu'il y a beaucoup de recherches sur d'autres pistes thérapeutiques pour traiter les gens qui ont déjà développé des symptômes et permettre la réduction également de la maladie. Donc, donner des molécules anti-A-bêta, c'est probablement trop tard quand les symptômes sont déjà installés. Et nous, nos pistes de recherche, c'est justement d'essayer de prédire le risque génétique de la maladie d'Alzheimer. On a vu que dans les formes héréditaires extrêmement rares, c'est malheureusement facile de le prédire, puisqu'on sait qu'il y a une seule faute d'orthographe présente dans une famille donnée. Donc, on sait, finalement, les gens peuvent faire un test génétique en voyant un médecin généticien. Mais pour tous les autres malades, c'est beaucoup plus compliqué. Et on va parler de cette partie des malades maintenant. Donc on va s'intéresser maintenant à tous les autres malades, qu'ils aient une forme du sujet âgé, 60, 70 ou plus, ou une forme du sujet jeune, mais qui n'est pas héréditaire. Eh bien, chez ces malades-là, la question c'est, est-ce que les gènes, c'est important ? Alors pour faire ça, en génétique, on regarde les jumeaux. Vous savez que les jumeaux, il y a les faux jumeaux, il y a les vrais jumeaux. Les faux jumeaux, c'est des frères et sœurs qui simplement se sont développés en même temps dans l'utérus de la maman. Et les vrais jumeaux, ce sont des frères et sœurs qui se sont également développés en même temps, mais qui sont identiques d'un point de vue génétique. Donc, si on regarde une personne qui développe la maladie d'Alzheimer et que cette personne a un jumeau, en fonction de si c'est un vrai jumeau ou un faux jumeau, on peut faire des statistiques pour savoir quelle est l'importance des gènes dans le développement de la maladie. Et on voit que si une personne est malade, son faux jumeau va être malade dans 20 à 40% des cas. Et si une personne est malade et qu'elle a un vrai jumeau, le vrai jumeau sera malade dans 45 à 65% des cas. Ça veut dire que les gènes jouent un rôle important, mais qu'il n'y a pas que les gènes qui influencent le cours de la maladie. Alors c'est quoi les gènes ? Je vous ai parlé du génome depuis tout à l'heure, mais finalement c'est quoi les gènes ? Les gènes, c'est, ben, vous voyez ici le chromosome, et en fait le chromosome c'est un enchevêtrement comme une pelote de laine d'une molécule d'ADN qu'on peut ici débobiner, et cette molécule d'ADN, elle renferme le code avec des molécules imbriquées les unes derrière les autres qui permettent de fabriquer des protéines. Et ces molécules, il y en a 3 milliards, c'est les petites bases, les petites briques qui permettent de fabriquer l'ADN. Et ces 3 milliards de paires de bases, on appelle ça des paires de bases, donc les briques qui constituent l'ADN, on a tous évidemment les mêmes paires de bases. C'est pour ça qu'on est des êtres humains. Mais pas exactement. On a quand même des toutes petites différences, parce que si on était tous composés du même ADN, on serait tous des jumeaux ou des clones, et ce ne serait pas très rigolo. Et puis, par ailleurs, on aurait évidemment tous le même risque de maladie. On a 4 millions de différences individuelles dans le génome. La plupart de ces différences n'ont aucune conséquence pour la santé, mais certaines peuvent augmenter le risque de développer un cancer, un diabète, une maladie d'Alzheimer, ou bien, au contraire, réduire le risque de développer cette maladie. C'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque génétiques, on peut les représenter sur ce genre de diapositive. Vous avez donc, sur l'axe horizontal, de la gauche vers la droite, c'est la fréquence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui sont porteuses de cette petite différence génétique. Donc ça peut aller de très très rare à très très fréquent, la moitié de la population par exemple. Et puis vers le haut, plus c'est en haut, plus quand je suis porteur de cette différence génétique, j'ai un risque élevé de développer la maladie. Donc on va retrouver nos 3 gènes en haut à gauche, c'est extrêmement rare, mais quand on est porteur, on est sûr de développer la maladie. C'est donc les 3 gènes de forme héréditaire qui concernent très peu de familles. Et puis vous avez tout le reste. Dans tout le reste, pour l'instant, on va parler de ce gène ApoE, qui est une particularité, parce que vous voyez que c'est fréquent, et pour autant, ça donne un risque intermédiaire ou élevé. Le gène ApoE, il existe sous 3 formes principales, qu'on appelle 2, 3 et 4, et la forme 4, qui est présente chez 25% de la population, comptez-vous dans la salle, 25% d'entre vous, et je me comprends en dedans évidemment, sont probablement porteurs d'au moins une copie de ce gène. Et 2% ont même leurs 2 copies du gène. Vous vous souvenez, il y a une copie du gène qui vient du père et une copie du gène qui vient de la mère. Eh bien, 2% ont 2 copies du gène sous la forme E4. Eh bien, quand on a la forme E4, vous voyez que c'est la courbe violette. Vous voyez qu'à 85 ans, on a 50% de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Si on a une copie du gène E4, c'est à peu près 20%, et si on a 0 copie du gène E4, c'est à peu près 10%, et si on a une autre copie du gène qui s'appelle 2, là, on a 2 fois moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc ce gène-là, ApoE, il est très très important parce qu'il est fréquent et qu'il joue un rôle important sur le risque de développer la maladie. Néanmoins, c'est un facteur de risque, parce que les 50 autres pourcents, ils n'ont pas développé la maladie. Donc on ne peut pas se baser uniquement sur ce gène pour dire qui va développer et qui ne va pas développer la maladie, et donc pour donner des médicaments ou des candidats médicaments en préventif. Il faut aller plus loin, il faut comprendre pourquoi 50% vont la développer et 50% ne vont pas la développer parmi ceux qui ont cette forme particulière du gène E4. Et pour ça, il faut regarder tout le reste de mon graphique. Alors il y a eu beaucoup d'avancées dans les années 2000-2010 sur ce qu'il y a en bas à droite. C'est des choses très très fréquentes, mais qui augmente très très peu le risque de maladie d'Alzheimer. C'est des choses qui augmentent, je vais passer là-dessus, oh, pardon, qui augmentent très faiblement le risque. Vous avez un tableau ici, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a une colonne avec écrit OR 1,3, 1,2, 1,1, 1,1. Ça veut dire que si je suis porteur d'un de ces facteurs de risque, mon risque il est augmenté de 1,2 fois plus ou 1,1 fois plus. Ça veut dire quoi? C'est rien du tout. 1,1 fois plus. C'est pas perceptible. Et l'hypothèse, c'est qu'on est tous porteurs d'un certain nombre de ces petites différences génétiques et que, faisant la somme de toutes ces petites différences génétiques, peut-être que certaines personnes sont encore plus à risque. Mais les grandes avancées de la génétique récente, elles sont ici, dans ce gros carré-là. Alors, ces avancées-là, elles ont été permises grâce aux avancées technologiques. Avant, on avait ce qui est en haut de la diapositive, accès à des cartographies du génome. Je vous ai mis la carte du monde à droite pour faire le parallèle. C'est comme si on regardait le monde et qu'on faisait une map monde avec des gros pointillés très grossiers et on voyait simplement ce qui ressort. Maintenant, on a le droit, on peut accéder au séquençage. Le séquençage, c'est vraiment décrypter, brique après brique, base après base, décoder le génome de chaque individu. Ça nécessite des nouvelles technologies qui sont maintenant disponibles, qu'on a à Rouen notamment, et ça permet d'avoir vraiment la différence dans chaque gène, et ça nous permet d'identifier des différences à l'intérieur des gènes qui peuvent modifier la fonction de certains gènes. Et il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années avec ces gènes, voilà, qui s'appellent SORL1, TREM2, ABCA7, peu importe leur nom. Ce tableau est en train de grandir d'année en année. Ces contributions-là, typiquement, l'équipe de Rouen et la France, à travers l'équipe de Rouen, a fait de très grandes avancées, puisqu'on a été parmi les premiers à identifier, finalement, un peu le chaînon manquant du risque génétique, même si tout n'est pas encore identifié. Et ce qui est apparu là sur cette diapositive, c'est encore des résultats de l'année dernière qui ont nécessité un gros consortium européen. Alors si on essaie de replacer ces facteurs de risque, on voit que c'est tout à fait logique avec ce que l'on connaît des mécanismes de la maladie. C'est-à-dire que les patients qui ont une forme héréditaire et les patients qui n'ont pas une forme héréditaire, c'est bien la même maladie. Elle n'est pas liée à la même cause. Pour les formes héréditaires, c'est une faute d'orthographe dans un gène. Pour les formes non héréditaires, c'est-à-dire l'écrasante majorité, c'est plein de petites différences génétiques qui vont s'additionner, mais qui agissent tous sur cette fameuse cascade amyloïde, ces mécanismes de la maladie d'Alzheimer. Alors, soyez rassurés, il n'y a pas que des facteurs de risque, il y a des facteurs protecteurs. Si on inverse le graphique, il y a également des petites différences génétiques qui nous protègent de la maladie. Il y a le fameux gène ApoE, il existe aussi sous une forme qui protège, qui est malheureusement plus rare. Le gène APP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donne une forme héréditaire, il y a d'autres mutations très très rares qui protègent de la maladie. Bon, je ne sais pas s'il y a des Islandais ou des Scandinaves dans la salle, mais malheureusement, cette petite mutation là du gène APP, elle n'est présente et elle n'est que très rare dans la population islandaise, et les quelques personnes qui la portent en Islande ou dans les pays scandinaves sont protégées de la maladie, ne peuvent pas la développer grâce à cette mutation qui empêche de fabriquer le peptide amyloïde bêta. Ce qui veut dire quand même que si on empêche de fabriquer ce peptide amyloïde bêta, ici, pour une raison génétique présente dans le génome d'une personne, mais on pourrait imaginer par un médicament qu'on donnerait des années avant chez une personne prédisposée, on devrait pouvoir être capable d'empêcher le développement de la maladie. Alors je vous ai dit que ces petites différences-là, elles étaient rares. Il y a des petites différences fréquentes qui entraînent très très peu de changements. Et puis il y a les nouvelles différences qu'on a identifiées récemment qui sont rares. Mais en fait, elles ne sont pas si rares que ça parce que toutes, elles sont différentes, et si on en fait la somme de tous les porteurs dans une population, ça va représenter 0,5, 1, 2, 3% de la population. Donc si on fait la somme de tout ça, ça peut représenter un nombre significatif de personnes qui pourraient être candidates peut-être à l'avenir pour des essais thérapeutiques. Alors ça reste des facteurs de risque. Vous voyez sur cette diapositive une famille à gauche qui a donc deux personnes qui sont en noir qui ont développé la maladie aux oscillateurs de 60 ans. Et vous voyez que ces deux personnes-là, elles cumulent deux facteurs de risque forts. Un qui s'appelle SORL1, qui multiplie par 30 le risque de développer la maladie, et un qui est l'APOE4, qui multiplie par 4 le risque de développer la maladie. Ce n'est pas une forme génétique, et pourtant, il y a deux facteurs génétiques. Bon, puis vous voyez la maman ici, 95 ans, elle a la mutation de SORL1, mais elle n'a pas la maladie. C'est un facteur de risque, ça veut dire qu'on peut en être porteur, mais qu'il faut d'autres choses pour développer la maladie. Et puis à droite, vous avez encore une autre famille où on a l'impression que c'est génétique parce qu'il y a quand même en noir plusieurs personnes qui ont développé la maladie à un âge précoce, mais pourtant, ce n'est pas une mutation unique dans un gène, c'est plusieurs briques génétiques qui se mettent ensemble pour favoriser la maladie chez ces personnes. Alors la grande question des généticiens, c'est on va essayer de faire un score et puis on va mettre tout ça ensemble et on va faire l'addition de tous ces facteurs de risque à l'échelon d'un individu et ça va permettre de prédire le risque. C'est ce qu'on appelle les scores de risque polygénique. Sauf que les scores de risque polygénique qui existent aujourd'hui, ils ne concernent que ce qui est fréquent, c'est-à-dire ce qui est entouré sur la diapositive à droite, ce qui est donc chez plus de 5% de la population générale globalement. Et en fait, ça représente tout simplement la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si on utilise ces scores-là aujourd'hui pour prédire le risque chez chacun d'entre nous dans la salle, on a de grosses chances de dire une grosse bêtise. Et donc de soit faire peur à quelqu'un alors qu'en fait il a un facteur protecteur qui fera qu'il ne développera pas la maladie, soit au contraire rassurer quelqu'un alors qu'il a une mutation qui va lui donner la maladie. Et donc ce qu'on veut nous, et c'est l'objet de nos travaux de recherche, c'est de voir l'iceberg tout entier. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail. Il faut aller décortiquer brique après brique ce qui est caché sous le niveau de la mer et puis savoir après comment ces petits glaçons ils se mettent entre eux pour faire le gros iceberg, globalement. Et donc ça, forcément, ça nécessite beaucoup de travail, notamment d'un travail en biostatistique qui a fait l'objet du financement par la mairie de Rouen. Je vais passer là-dessus. On va aller sur la conclusion pour laisser de la place à la discussion. Donc, je vous redonne les principaux messages. Le gène APP code pour une protéine qui va permettre de fabriquer un peptide, le peptide amyloïde bêta, qui est aujourd'hui la cible des candidats médicaments. Le peptide A-bêta déclenche une cascade d'événements, et une fois qu'elle est déclenchée, quelque part, elle agit pour son propre compte, et si on supprime la cause, bah finalement, la maladie continue d'évoluer par elle-même, et si on veut combattre la cause, probablement qu'il faut le faire très en amont, avant le début des symptômes. Il y a de multiples différences génétiques dans le génome d'un individu qui peuvent expliquer pourquoi on est tous inégaux devant le risque de développer chaque maladie, dont la maladie d'Alzheimer. Et les facteurs de risque génétique sont importants, mais pas uniques dans le risque de développer la maladie. Il existe des gènes donc, de forme héréditaire, très très rares, et des gènes de facteurs de risque. Et tous nous pointent le doigt vers le peptide amyloïde bêta, nous disant c'est vraiment là qu'il faut s'attaquer, c'est contre ce peptide amyloïde bêta qu'il faut s'attaquer dans le cerveau. Les formes héréditaires, je vous l'ai dit, sont très rares, et les facteurs de risque génétique, eux, sont rares ou fréquents, mais il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à aller faire un test génétique personnel, parce que ça ne suffirait pas à prédire le risque chez une personne au stade actuel des connaissances. La maladie d'Alzheimer du sujet âgé, c'est la même que la maladie d'Alzheimer du sujet jeune, et c'est la même dans le cerveau que la maladie héréditaire, même si la cause n'est pas la même, évidemment. Ce qui veut dire que travailler sur les formes génétiques, eh bien, ça nous apprend des choses pour toutes les formes de maladie d'Alzheimer. Et donc, comme je vous le disais, cette cascade de mécanismes commence des années avant le début des symptômes, ce qui veut dire que probablement, il faut traiter, prévenir la maladie d'Alzheimer auparavant. Alors, comment faire ? Il y a encore beaucoup de travail. Il va falloir continuer d'identifier les fameux chaînons manquants sur mon graphique. Là, il reste encore beaucoup de blanc. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin de travailler encore en 2023 sur la génétique et notamment avec des nouvelles technologies encore plus précises. Et puis mettre en place des modélisations statistiques. La génétique, c'est beaucoup de l'informatique et des statistiques, des calculs complexes pour essayer de comprendre comment ces facteurs de risque interagissent entre eux et avec tout ce qui est non génétique, parce qu'il ne faut pas mettre de côté également les facteurs non génétiques. Et avec tout ça, on espère qu'on pourra prévenir la maladie en identifiant quelles personnes sont à risque et qui pourraient bénéficier d'un traitement pour empêcher le développement de la maladie à l'avenir. Je vous présente sur cette dernière diapositive les principaux membres de mon équipe, qui sont composés de neurologues, de généticiens, de biologistes qui travaillent sur des cellules, de bioinformaticiens, de biostatisticiens. On a besoin de tout ça pour bien comprendre, des ordinateurs jusqu'aux cellules, pour bien comprendre et mettre en place des circuits et des stratégies thérapeutiques pour l'avenir. Je vous remercie pour votre attention.